On lit pour toi. Aujourd'hui, on lit pour toi
Les As de l'info et Québec Science. Le Canada veut interdire les réseaux sociaux aux moins de 16 ans. Un texte de Camille Lopez, paru le 11 juin 2026 dans les As de l'info. Le gouvernement du Canada suit l'exemple de l'Australie. Il a l'intention d'interdire les réseaux sociaux aux jeunes de moins de 16 ans. Mais ça n'arrivera pas tout de suite. Je t'explique. Mercredi, le ministre de la Culture, Mark Miller, a déposé un nouveau projet de loi sur la sécurité numérique. Pourquoi? Il a déclaré que c'était au nom de la sécurité des enfants. L'élément qui fait le plus parler en ce moment concerne ton accès aux réseaux sociaux. Pourquoi? Eh bien, une fois adopté, cette loi empêchera les jeunes de moins de 16 ans d'utiliser des plateformes numériques comme TikTok et Instagram. Mais ce n'est pas une interdiction complète. Les réseaux sociaux, qui respectent certaines règles de sécurité, pourraient laisser les jeunes utiliser leurs plateformes. Par exemple, les plateformes auront l'obligation d'identifier le contenu dangereux généré par l'intelligence artificielle et d'empêcher les jeunes d'y accéder. La loi ne touche pas les plateformes comme Roblox, où les utilisateurs peuvent discuter en ligne. Par contre, le projet de loi encadrerait aussi les robots conversationnels qui utilisent l'intelligence artificielle. Le Canada n'est pas le premier pays à vouloir t'éloigner des réseaux sociaux. En décembre 2025, l'Australie est devenue le tout premier pays à bannir les moins de 16 ans de Facebook, YouTube, Instagram, Twitch, Snapchat, Threads, X, Kick et Reddit. Là-bas, si un jeune arrive à contourner l'interdiction, c'est la plateforme qui est punie et pas lui. Mais pourquoi? J'ai parlé à des gens qui sont pour et contre l'interdiction des réseaux sociaux aux jeunes. Envie de te faire une tête sur la question? En ce moment, un peu partout au Canada, des groupes demandent que les réseaux sociaux soient interdits aux moins de 16 ans. C'est déjà le cas en Australie depuis le mois de décembre. Quelles sont leurs raisons? Et est-ce une bonne idée? Explorons deux projets et les arguments qui s'y opposent. Une pétition au Québec. Depuis avril, plus de 17 000 personnes ont signé une pétition qui demande au gouvernement du Canada d'imposer un âge minimum pour accéder aux réseaux sociaux. 16 ans. Pourquoi? C'est principalement une question de santé mentale. Les réseaux sociaux, comme Snapchat et TikTok, ont été liés à des problèmes d'anxiété, de dépression et d'intimidation chez les jeunes. Tout ça dérange particulièrement Jean-Sébastien Giroux, papa, beau-père et dirigeant d'une entreprise techno. C'est lui et des collègues parents pros de la techno qui ont lancé cette pétition. D'ailleurs, sa fille de 13 ans n'a pas le droit d'être sur les réseaux sociaux. La seule exception, c'est le système de messagerie de Snapchat. J'en discute beaucoup avec elle et c'est difficile. Parce que ça la prive de liens sociaux avec ses amis qui sont sur Instagram le soir. Mais ce que je veux éviter, c'est la quête de popularité et le défilement infini de vidéos. Ça bousille la capacité d'attention des jeunes, m'a-t-il dit. Ses collègues et lui ont contacté les pays qui limitent l'accès des jeunes à ces plateformes, comme le Brésil, l'Australie et la Grande-Bretagne. En leur parlant, ils ont constaté qu'il existe des technologies capable d'estimer l'âge des utilisateurs en se servant de la caméra d'un téléphone. Une fois que l'âge est estimé, ça donne un feu vert ou un feu rouge. Si le système estime que Camille, devant moi, a bien 17 ans, elle pourra s'ouvrir un compte. Sinon, ça bloque. Ce qu'il veut, c'est que le gouvernement fédéral oblige les plateformes à utiliser ces technologies. Un projet de loi au Manitoba. On t'amène maintenant dans un autre coin du pays, parce que le Manitoba veut devenir la première province du Canada à interdire les réseaux sociaux et les robots de clavardage qui fonctionnent avec l'intelligence artificielle aux jeunes de moins de 16 ans. Le 25 avril, son premier ministre, Wab Kinyou, a annoncé qu'il comptait déposer un projet de loi pour protéger les jeunes au nom de la santé mentale. Il s'inspire de l'Australie, qui punit les plateformes et non les parents ou les enfants, si la loi n'est pas respectée. On ne sait pas encore quand le projet deviendra officiel, mais on te tient au courant. Des oppositions. Toutefois, pour plusieurs experts, interdire les réseaux sociaux aux jeunes n'est pas une bonne idée. C'est le cas de Nelly Brière, spécialiste des médias numériques. C'est beaucoup trop gros pour tout réglementer de la même façon. Il y a le pire et le meilleur sur les réseaux sociaux, et on ne veut pas interdire le meilleur. Il y a plein d'aspects positifs derrière les réseaux sociaux et les écrans. Ça dépend de l'utilisation qu'on en fait, m'a-t-elle expliqué. Quelques effets positifs dont elle parle. La possibilité de s'exprimer librement, de trouver une communauté qui nous ressemble, de communiquer avec ses proches et d'apprendre à être un bon citoyen numérique. Nelly Brière propose plutôt de réglementer certaines fonctionnalités des réseaux sociaux, comme les systèmes de récompense et le défilement infini de contenu. Et pour le reste, il n'y a rien de mieux que de l'éducation, que d'apprendre à se contrôler et à se réguler et avoir une bonne hygiène de vie par rapport aux écrans. Comme on apprend à se réguler à l'épicerie quand on n'achète pas tout le temps les tablettes de chocolat qui nous sont présentées à la caisse. On dirait que le Canada profiterait bien d'une grande conversation entre toutes ces personnes. Un projet de loi. Cette idée n'est encore qu'un projet de loi. Il s'agit d'une proposition qui sera étudiée et débattue par les politiciens qui forment le gouvernement du Canada et ceux qui forment l'opposition. Cela peut prendre plusieurs semaines. Tous passeront ensuite au vote qui décidera si le projet devient une loi ou pas. Et si tu as un grand frère ou une grande sœur de 14 ou 15 ans, tu peux lui dire de ne pas paniquer. Une fois adopté par les politiciens, ce qui peut prendre du temps, cette loi pourrait prendre un peu moins de 2 ans avant d'entrer en vigueur. On te tient au courant des développements. Et toi, dois-tu suivre des règles concernant les réseaux sociaux? Lesquelles? Que penses-tu de cette interdiction? Selon toi, quelles règles de sécurité devrait-on imposer aux réseaux sociaux? Fumer laisse des traces. Un texte paru le 21 juin 2024 dans le magazine Québec Science. Fumer laisse des traces. Depuis longtemps, fumer du tabac est reconnu comme un facteur de risque majeur pour plusieurs maladies. Cependant, ses effets sur le système immunitaire sont moins souvent évoqués. De récentes recherches révèlent comment le tabac influence nos défenses immunitaires. Tu as sûrement déjà entendu parler des risques du tabac. Le tabagisme est l'une des principales causes de maladies et de décès évitables dans le monde. Les risques pour la santé sont multiples. Cancer, maladies cardiovasculaires et respiratoires, complications lors d'une grossesse ou baisse de fertilité. Mais savais-tu que le tabac nuit aussi au système immunitaire? Le système immunitaire est essentiel à ta survie. Il te protège des infections et des maladies. Il est composé de différentes cellules et molécules qui aident ton organisme à se défendre contre les microbes. Les anticorps reconnaissent et marquent les microbes qui pénètrent dans l'organisme. Les globules blancs reconnaissent ensuite les microbes grâce à ces étiquettes que sont les anticorps et les détruisent. Au milieu de tout cela, les cytokines sont des molécules du sang qui permettent de synchroniser et réguler toutes ces réactions immunitaires. La performance du système immunitaire varie grandement d'un individu à l'autre. Pour comprendre cette variabilité, une étude a été menée par des scientifiques de l'Institut Pasteur, France. Ils ont étudié une cohorte de 1000 personnes en bonne santé, âgées de 20 à 70 ans. L'objectif? Identifier les facteurs influençant le système immunitaire au-delà de l'âge, du sexe et de la génétique. L'étude a révélé que 3 variables se démarquaient. Le tabagisme, l'infection latente au cytomégalovirus et l'indice de masse corporelle, IMC. Pour la variable du tabagisme, les scientifiques ont demandé aux personnes volontaires si elles fumaient ou si elles avaient déjà fumé la cigarette. Le cigare et le vapotage n'ont pas été pris en compte. Parmi ces facteurs, le tabagisme a montré un impact particulièrement prononcé. En analysant des échantillons sanguins exposés à divers microbes, les chercheurs ont mesuré les niveaux de cytokines. Ils ont observé que les fumeurs présentaient une réponse inflammatoire plus importante lors des infections, augmentant leur risque de complications et d'inflammation chronique. Mais les effets du tabagisme ne s'arrêtent pas là. En comparant les profils immunitaires des fumeurs, ex-fumeurs et non-fumeurs, les chercheurs ont découvert que l'impact sur l'immunité persistait, potentiellement jusqu'à 15 ans après l'arrêt. Fumer induirait donc des modifications persistantes de l'expression de l'ADN, affectant ainsi le bon fonctionnement des cellules immunitaires. Alors, autant ne jamais commencer à fumer, non? Toi, est-ce que tu penses fumer un jour? De Cowboy Fringant à Scientifique en chef. Un texte de Caroline Bouffard paru le 11 juin 2026 dans les As de l'Info. Jérôme Duprat. Est-ce que ce nom te dit quelque chose? C'est le bassiste du très populaire groupe de musique Les Cowboy Fringants. Et depuis le 27 mai, c'est aussi le nouveau scientifique en chef du Québec. Ça te surprend? La nouvelle m'a aussi étonné, jusqu'à ce que je parle avec cet amoureux de musique, de sport et de science. Attention, sa curiosité est contagieuse. Jérôme, tu es musicien et scientifique? Oui. Je suis bassiste pour les Cowboys Fringants depuis mon secondaire 4, mais en parallèle, j'ai poursuivi mes études en sciences. Après le cégep, j'ai étudié en biochimie à l'Université de Montréal. C'est comme ça que ma carrière scientifique a commencé. Je suis passionné par l'environnement. Et je me suis spécialisé en économie de l'écologie. Je suis prof de sciences à l'Université du Québec en Outaouais, chercheur et toujours musicien. Et qu'est-ce que tu rêvais de faire au primaire? Je rêvais de devenir athlète professionnel. J'étais très sportif. Je jouais au hockey l'hiver et au soccer l'été. Tu es maintenant le scientifique en chef du Québec. Ça fait quoi, un scientifique en chef? Ça se promène en sarrau dans un grand laboratoire en dirigeant une équipe de scientifiques? Non. Le scientifique en chef du Québec a deux rôles principaux. Le premier est de conseiller le gouvernement lorsqu'il a besoin d'un avis scientifique pour prendre une décision. Et le deuxième est de diriger les fonds de recherche du Québec. C'est une société d'État qui distribue chaque année environ 330 millions de dollars aux étudiants et aux chercheurs des universités et des cégeps du Québec. C'est très important et sérieux. Oui, mais dans les faits, le scientifique en chef se déplace aussi beaucoup dans les écoles et dans différents événements. Pour parler de science, pour aider à développer la curiosité scientifique ou pour expliquer comment la science peut aider à lutter contre la désinformation. Ce contact avec le public, c'est très important pour moi. On peut donc t'inviter dans notre école? Oui. En fait, je visite des écoles depuis 25 ans. Quand j'étais en tournée avec les Cowboys, j'en profitais pour visiter des écoles et parler de science. Maintenant, je suis en tournée scientifique, mais avec la même passion. J'étais au festival Eureka le week-end dernier. Cette semaine, je vais visiter l'Expo Science de ma fille qui présente un projet sur les fourmis. Et ce week-end, je serai au festival scientifique Lévisium à Lévis. On présente souvent les arts et les sciences comme deux mondes opposés. Mais toi, tu as choisi les deux. La diversité, c'est un des ingrédients du bonheur et de la réussite. Dans la vie comme dans la nature, biodiversité, diversité culturelle, diversité des idées. Certaines personnes savent très tôt ce qu'elles veulent faire. D'autres, comme moi, accumulent les expériences. J'ai été artiste, scientifique, militant et entrepreneur. Je n'ai jamais considéré ces expériences comme des choix exclusifs, mais plutôt comme des éléments qui s'additionnent et construisent la personne que je suis devenue. Tu vois des liens entre l'art et la science? Oui. Ce qui lie les deux, selon moi, c'est la créativité. En science, on ne cherche pas à répéter ce qui existe déjà. On cherche à innover, à créer, comme en musique, mais on s'inspire de ce qui a été fait avant. Et présenter ses recherches dans un congrès scientifique, c'est comme donner un spectacle. Il y a peut-être moins d'applaudissements, mais il y a autant d'intérêt. Tu es le deuxième scientifique en chef de l'histoire du Québec. Pourquoi as-tu été choisi, selon toi? Le gouvernement était à la recherche d'un scientifique d'expérience qui pouvait également bien vulgariser la science et qui avait des liens avec l'ensemble de la société. Mon parcours avec les Cowboys Fringants était un plus. Ça peut aider à entrer en contact avec des personnes qui trouvent la science intimidante. Vas-tu continuer à faire de la musique? Oui. Les Cowboys Fringants sont officiellement en pause depuis la mort de Carl Tremblay, mais le groupe demeure bien vivant. Je vais participer au développement de la suite de la comédie musicale Pop Royal et nous avons toujours le souhait de remonter un jour sur scène ensemble. C'est notre objectif à long terme, mais c'est certain que les prochaines années seront surtout consacrées à mon travail en sciences. C'est un rôle très exigeant. Un mot de la fin? La science est accessible. Il n'existe pas un seul chemin. On peut aimer la musique, le sport ou bien d'autres choses et aussi s'intéresser à la science. Jérôme est musicien et scientifique. Toi, si tu pouvais combiner deux métiers, ce seraient lesquels?
Si tu te souviens de ce temps où la vie te semblait plus sweet, tout ça fait déjà un moment. Des fois on perd le beat. Quand pour fortune t'avais 30 sous et que le bonheur tenait dans ta poche, c'était bien avant de comprendre que tout tient avec la broche. Mets ta tête sur mon épaule pour que mon amour te frôle, toi qui en as tant besoin. Ça fait 10 ans et des poussières qu'on fait face au vent d'hiver. Ensemble, on n'a peur de rien. Dis-toi que ce soir, ma blonde, t'es pas seule au monde.
Contrôler un ordinateur par la pensée. Un texte paru le 4 juin 2024 dans le magazine Québec Science. Un jour, probablement, nous pourrons contrôler un ordinateur ou envoyer des textos par la pensée grâce à des puces implantées dans le cerveau. Bien que prometteuses pour aider les personnes en situation de handicap, ces technologies soulèvent des défis techniques et des questions éthiques majeures. Imagine un monde où tu peux envoyer des textos, publier sur les réseaux sociaux ou même passer un appel rien qu'en y pensant. Science-fiction? Pas tout à fait. Avec des électrodes implantées dans le cerveau, cela pourrait devenir réalité. En 2005, un patient paraplégique a été le premier à pouvoir contrôler une main artificielle grâce à des électrodes implantées dans son cerveau, ce qu'on appelle une neuroprothèse. Des neuroprothèses permettent aussi de pallier certaines formes de surdité ou de cécité. Ou de permettre à des personnes en situation de handicap de contrôler des dispositifs comme un bras motorisé, un fauteuil roulant ou une prothèse. Depuis, les avancées continuent, avec des sociétés comme Neuralink, fondée par Elon Musk. Leur objectif est de développer un implant cérébral pour contrôler un ordinateur par la pensée. Une neuroprothèse est un dispositif complexe composé de différentes parties pour établir une connexion entre le cerveau et une machine ou un ordinateur. Tout d'abord, elle est composée d'un réseau d'électrodes, des fils extrêmement fins, mis au contact des neurones du cerveau. Ces électrodes sont connectées à un système de communication qui peut envoyer ou recevoir des informations. Puis, un dispositif de traitement de l'information permet de coder ou décoder les données des électrodes. L'implant de Neuralink, appelé télépathie, de la taille d'une pièce de 2 $, permettrait de contrôler un curseur ou un clavier d'ordinateur par la pensée. L'implant a tout d'abord été testé sur des cochons et des singes. Après un premier refus, la FDA, Food and Drug Administration, a autorisé les essais cliniques sur l'être humain en mai 2023. Ainsi, en janvier 2024, un premier volontaire humain a reçu l'implant. Après des entraînements, celui-ci arrive à déplacer le curseur d'une souris et à jouer au jeu vidéo Pong. Cependant, plusieurs mois après, des problèmes sont apparus. Seulement 154 des 1024 électrodes sont encore connectées au cerveau et l'implant se déplacerait dans le cerveau du patient. Surtout, cette étude soulève des questions éthiques. L'entreprise n'est pas totalement transparente sur les résultats et les critères d'évaluation. De plus, l'objectif final de Neuralink est-il d'améliorer les conditions de vie des personnes en situation de handicap ou de commercialiser ces technologies à grande échelle pour améliorer les capacités humaines, ce que certains appellent le transhumanisme? La médecine actuelle interdit d'améliorer les capacités des humains. Et de nombreux défis techniques restent à surmonter. Ce n'est donc pas encore demain que tu pourras jouer aux jeux vidéo uniquement par la pensée. Et toi, es-tu subjugué et curieux des progrès de la science?
C'était Gilbert. À une prochaine lecture.
C'est tout pour aujourd'hui.
Merci à Gilbert, Christiane, Louise, Mathieu et Carlo.
On se retrouve la semaine prochaine.